Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 35. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caranoni et Cyprien Signy.
Et Brice Dugénie qui est arrivé en studio.
Oui, c'était moins une. Hein.
On dit bonsoir aux gens ou pas, non?
Oui, pardon.
Bonsoir à tous.
Quand même, un peu de politesse, vous réagissez, vous commentez. On est ensemble jusqu'à 20h, à disposition le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. 19h16, on est ravis de vous accompagner. On défait le monde tous ensemble sur RTL le vendredi. Voici le sommaire avec Cyprien.
Tribune après tribune en ce moment, l'armée est au centre des débats. Ce soir, on clarifie la situation et on vous explique clairement ce qu'elle peut et ne pas faire sur le territoire national. Explosion de la demande de rendez-vous chez les chirurgiens esthétiques. On allumera la lumière sur un phénomène aussi étonnant qu'inquiétant. Vous l'attendez chaque vendredi avec impatience, le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, c'est l'histoire d'un mariage qui prend du plomb dans l'aile.
Oui, quand le couple Macron-Bayrou se dispute, c'est toute la majorité qui s'embrouille.
Le billet retour quand on revient sur une info ou sur quelqu'un hein, qui a fait la une et que l'on voit moins dans l'actualité. Et ce soir, Brice, vous me régalez, vous allez nous parler football au Mexique.
Oui, en 2015, certains disaient qu'André-Pierre Gignac partait s'y enterrer. Vous allez voir qu'il n'a jamais été aussi vivant.
D'ici 20h, vous aurez évidemment vos trois infos pour briller au dîner. Avec ce soir une thématique surprise, vous allez l'entendre. Dans Marche ou Rêve, vous découvrirez comment faire vos repas avec 1 euro. Et bien entendu, vers 19h40, le jeu avec à gagner un séjour au paradis. Puisqu'on vous envoie en Normandie. On défait le monde, saison 2, épisode 35.
Allez hop, on y va, on va pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Le petit bruitage tout en direct, c'est Marie Mollet qui...
Oui, ah ouais, voilà, c'est ça.
J'avais entendu vous aussi.
Elle jette ses feuilles sur le micro et du coup ça fait
des
bruits. On y va pour le surf de la semaine à 19h17.
Eh bien, grosse actualité politique justement cette semaine où la situation s'est semble-t-il enfin clarifiée pour les régionales en PACA. Vous vous souvenez, séisme chez les Républicains il y a 15 jours quand...
Renaud Muselier n'aura pas d'adversaire à La République En Marche. La liste conduite par la secrétaire d'État Sophie Cluzel se retire.
Une alliance, une fusion LR-LREM, psychodrame chez les Républicains. Donc finalement, cette semaine, Sophie Cluzel, pour La République En Marche, a décidé qu'il y aurait bien une liste En Marche en PACA. Très motivée, Sophie Cluzel.
Je suis candidate, oui, de la majorité présidentielle. Je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour. Ça ne changera plus. Je veux que ça soit très clair.
Voilà, clair, net et précis. On ne peut pas faire plus carré.
Ça ne changera plus. Je veux que ça soit très clair.
Ça ne changera plus, très clair. Et donc, résultat ce matin.
Sophie Cluzel a fini par jeter l'éponge hier soir. Elle ne conduira pas de liste pour la majorité présidentielle.
Oh, et voilà le travail. Elle se re-retire. Et là, j'ai envie de vous dire...
Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Mais c'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris. C'est la clarté dans la confusion.
Oui, c'est la politique comme on l'aime, quoi. Sinon, pensée régionale. Alors, pas mal de nouveaux visages, hein, comme Philippe Ballard, ancien journaliste, devenu tête de liste Rassemblement National à Paris, qui frappe fort pour son entrée en campagne, toujours bien s'appuyer sur les grands auteurs pour s'offrir une crédibilité, c'est la base du coup.
Vous connaissez Ramsey, c'est ce philosophe italien.
Attends, il a dit comment le philosophe italien là?
Vous connaissez Ramsey, c'est ce philosophe italien.
Non, alors on connaît Ramsey, mais je crois pas qu'il soit philosophe italien, non. Le Ramsey qu'on connaît, c'est plus...
Je vais faire un stage là, pendant les vacances, je vais faire du chichi dessus.
Bah fais gaffe à pas trop te salir.
Et ouais, en même temps, l'humour, c'est un peu de la philosophie. Donc a priori, il voulait plutôt parler de Gramsci, le philosophe italien. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus savoureux dans cette histoire, c'est qu'il le cite Gramsci, enfin Ramsey, pour évoquer la culture. En disant ça,
il faut gagner la bataille culturelle. Je pense que la bataille culturelle, nous l'avons gagnée.
Ouais, alors avec Ramsey comme philosophe italien, niveau culturel, on n'est pas sûr que la bataille soit complètement gagnée quand même. Bon, à part ça, vous savez qu'On défait le monde est désormais très très écouté par les politiques. Émission de référence, et oui. Car la semaine dernière, Brice, vous aviez tout particulièrement, et vous l'aviez dit à l'antenne, adoré cette punchline. Si, de Christian Jacob, souvenez-vous.
Oui, Monsieur Mariani, oui, il a à peu près autant de conviction qu'un jeune chien devant un sac de croquettes.
Ouais, vous l'aviez aimé celle-là.
Faut
que c'est génial.
Bah oui. Et bien certainement pour vous faire plaisir et s'attirer vos faveurs, vous êtes très influent. Aurélien.
Ça c'est méchant.
Mais non,
ça,
c'est vrai. Mais non, c'est Aurélien cool. Pradier, député Les Républicains cette semaine.
Thierry Mariani, qui ont une colonne vertébrale aussi forte que des jeunes chiens devant un sac de croquettes.
Voilà, comme par hasard, la même. C'est pour vous, c'est cadeau. À moins qu'en fait, quand ils en tiennent une bonne chez Les Républicains, ils la recyclent jusqu'au bout. Enfin, un peu de Covid quand même dans l'actu, faut bien. Avec le roi ou la reine de la vaccination, je ne sais pas. Vous connaissez tous évidemment.
Ne connais pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près.
Eh ben, on tient le Jean-Michel à peu près du vaccin. Puisqu'en Italie, une personne a injecté, enfin, une personne, Jean-Michel à peu près, donc a injecté à une jeune fille 6 doses de Pfizer d'un coup. Oui, à peu près la bonne dose, quoi. Il lui a tout mis, tout le flacon. Bon, un léger vent de panique s'est mis à souffler. Puis, alors, le lendemain, breaking news.
Eh bien, les autorités italiennes rectifient leur information. Elle n'a pas reçu 6, mais 4 injections.
Oh, non. Alors, tout de suite, ça va beaucoup mieux. En tout cas, depuis, elle fournit la 5G en Wi-Fi à tout son immeuble. Allez, vive-moi la semaine prochaine.
Formidable. Il était bien, hein, celui-là.
Ah, ça me fait plaisir.
Il était bien, il était bien. Dans le top 10 de la saison. Ah,
on sait qu'il y a 35 émissions, c'est pas mal.
Ouais,
c'est
on
pas
peut
mal.
Peut-être mettre une note, du coup.
Non, trop de pression, là, je vais pas y arriver.
On va réfléchir, 19h21.
RTL Soir, on défait le monde.
On s'arrête tous ensemble sur la grosse info de ce soir et on s'intéresse au rôle des armées dans notre pays.
Oui, parce que ça vous aura pas échappé, hein, avec 2 tribunes parues dans la presse en moins d'un mois, l'armée s'est retrouvée au cœur des débats de politique et d'éditorialistes. Tout ou presque a été évoqué, soulèvement militaire, sédition, intervention pour établir l'ordre. Alors, dans On défait le monde ce soir, on a voulu y voir plus clair sur le sujet. Et coup de chance, dans l'équipe, on a Brice, qui est le spécialiste des questions défense ici à RTL. Du coup, Brice, première chose, les armées, est-ce qu'elles peuvent intervenir sur le territoire national ?
Alors oui, mais cela dépend en fait de ce qu'on leur demande. Prenons l'exemple le plus connu, évidemment, celui de l'opération Sentinelle. Oui. Les militaires interviennent bien sur le territoire national, mais dans un rôle très précis, très encadré juridiquement, la lutte antiterroriste. Ça veut dire que leur présence, elle a un but, mettre fin à un éventuel périple meurtrier type attentat, donc clairement dissuader, voire neutraliser un éventuel terroriste, mais la mission ne va pas au-delà de ça.
Mais alors, comme on l'entend parfois dans la bouche de certains, est-ce qu'il est possible d'envoyer l'armée, je sais pas, pour rétablir l'ordre, par exemple ?
Eh bien là, non. Ce n'est pas possible pour 2 raisons. La première, c'est que les forces armées en France, c'est ce qu'on appelle les forces de 3e catégorie. Première catégorie, policiers et gendarmes. Deuxième catégorie, les CRS et les gendarmes mobiles, vous savez, qu'on voit dans les manifestations quand les situations dégénèrent. Pour réquisitionner les forces armées, pour rétablir l'ordre, par exemple, c'est ce que vous me disiez, cela ne peut se faire que si policiers, gendarmes, CRS et gendarmes mobiles ne peuvent plus entrer dans la zone parce que l'ennemi serait trop armé ou trop puissant. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur notre territoire, comme l'explique Elie Tenenbaum, il est spécialiste des questions de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
La situation est que vous avez aujourd'hui aucun pan du territoire national qui soit considéré comme inaccessible. Concrètement, on n'a jamais eu de forces de police ou de gendarmerie qui ont reconnu leur incapacité à arriver sur ces pans du territoire national. On a des problèmes de sécurité du quotidien, peut-être de dimensionnement des forces de police de manière ponctuelle, mais on ne peut pas dire que les forces type gendarmerie mobile ou CRS, il n'existe pas de forces d'opposition qui puissent les empêcher d'entrer sur toute ou partie du territoire. Et donc, on n'a pas besoin de mobiliser les forces armées à cet effet.
Alors, ça ne revient pas à nier les problèmes de violence ou de délinquance, mais simplement dire que la mission des armées, elle est spécifique et elle ne peut pas se faire dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que la nature de la mission militaire n'est pas celle-là.
Le cœur des métiers de l'armée, c'est l'interaction avec un ennemi. C'est une interaction d'une autre nature, qui est la protection des intérêts vitaux de la nation face à des menaces d'ordre militaire ou paramilitaire. Sur le territoire national, nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des citoyens qui peuvent verser dans une forme de délinquance ou d'une criminalité, mais ils ne sont pas des ennemis, ce sont des citoyens qui ont des droits, qui sont justiciables.
Donc la solution dans ces zones que certains appellent de non-droit se trouve sûrement plus dans les moyens alloués aux policiers et gendarmes, première et deuxième catégorie, ou dans leur organisation dans ces zones difficiles, plutôt que dans le recours aux armées.
Alors on vous suit, Brice, avec toute l'équipe, la mission des militaires n'est donc pas la même, hein. Et d'ailleurs leur statut non plus.
Et c'est la deuxième raison, justement, c'est que les militaires ne sont pas, comme policiers et gendarmes, des officiers de police judiciaire. C'est-à-dire que si vous envoyez un militaire dans la rue, il ne peut pas arrêter une personne, il ne peut pas enquêter, il n'en a pas le droit, ce n'est pas son métier.
Les forces armées ne remplacent pas les forces de sécurité intérieure, elles ne peuvent pas appréhender des individus, les interroger encore moins, rassembler des preuves qui pourraient servir à une judiciarisation. C'est un autre métier, la capacité à préparer des preuves, à accumuler des preuves qui peuvent être ensuite judiciarisées dans le cadre de commissions rogatoires, dans le cadre d'une procédure du code de procédure pénale. Ça ne fait pas partie du métier des militaires.
Les rôles sont donc bien définis. En fait, c'est la garantie du fonctionnement républicain et démocratique. D'ailleurs, l'intervention armée des militaires contre des citoyens, contre la population, cela se produit dans les pays où souvent les règles démocratiques ne sont plus vraiment une priorité. Et puis, il y a quand même une dernière chose, c'est que entre les opérations extérieures, on pense évidemment au Sahel, entre Sentinelle en France, puis toutes les autres missions, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire, la protection du territoire, eh bien les effectifs des militaires sont à flux tendu et il serait aujourd'hui impossible de leur faire endosser une mission supplémentaire.
Mais alors Brice, on a quand même le sentiment que faire appel aux armées, c'est un côté rassurant.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, même dans les armées, on en a conscience, les militaires en ont conscience, ça a un effet anxiolytique. En fait, c'est-à-dire que l'institution, c'est l'institution à laquelle on fait appel quand on a le sentiment de perdre le contrôle, que pas forcément que pour la délinquance, ça a été le cas aussi sur le Covid. On a vu beaucoup de voix dès le début s'élever pour dire il nous faut l'armée. Alors il y a eu un hôpital militaire à Mulhouse, il y a eu, vous savez, l'opération Résilience et ce transfert de patients. Mais parfois, c'est vrai qu'on pense à l'armée alors que les militaires n'ont pas forcément les compétences. Ils ne peuvent pas tout. Et ça, d'ailleurs, les hommes et femmes politiques l'ont bien compris. C'est-à-dire que lorsqu'ils invoquent l'armée, ça fait, entre guillemets, sérieux, ça rassure l'opinion. Ça montre que ces hommes ou ces femmes ont pris conscience d'un problème, qu'il est grave. Et certains hommes politiques peuvent être tentés de basculer dans une forme de communication, même si parfois on le voit, les armées n'ont pas toutes les compétences requises pour le travail.
Voilà, les choses sont claires grâce à Brice Dugénie, notre spécialiste des armées ici à RTL. Vous restez bien avec nous, il est 19h26.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour briller spéciale, vous allez voir quoi. Vous découvrirez aussi pourquoi la chirurgie esthétique n'a jamais aussi bien fonctionné. Et puis allez, il faut patienter encore un peu. Et bientôt le jeu. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Le tout à 19h29, donc il y a une thématique ce soir pour ces trois infos pour briller au dîner. C'est autour de Bob Marley. On rappelle pourquoi ?
Parce que c'est les 40 ans de sa mort le 11 mai.
Bien, bien. Donc
cette semaine, on a fêté les 40 ans de sa mort.
Ah, j'ai compris. Bob et l'amour, Marie.
Oui, moi je voulais vous parler d'une histoire d'amour assez improbable, puisque Bob Marley, juste avant de mourir, a vécu une idylle passionnelle avec la fille d'un dictateur. Oh. Pascaline Bongo, l'enfant chéri d'Omar Bongo, président du Gabon pendant plus de 40 ans. Une histoire d'amour restée secrète et révélée il y a quelques années seulement. Alors, ils se rencontrent à la fin d'un concert en 79 et c'est Pascaline Bongo qui va faire venir Bob Marley en Afrique pour la première fois et c'est au Gabon. Alors, à ce moment-là, la star du reggae ferme les yeux sur la dictature, la misère dans le pays parce qu'Omar Bongo est le chef d'État qui a proposé l'asile à l'époque au roi d'Éthiopie, Selassie, considéré comme un dieu sur Terre, dans la religion Rasta, hein, si ça vous intéresse. Tout ça est expliqué dans le livre signé Anne-Sophie Jean, Bob Marley et la fille du dictateur.
Voilà, très bonne première info pour briller au dîner ou pour planer au dîner. On aurait pu habiller tout ça, mon cher Greg, non, aux manettes.
Je vous attendais là-dessus. Évidemment, j'ai prévu quelque chose. Je vous le fais écouter.
Ouais. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour planer.
Voilà. On se sent mieux.
Évidemment. Comme quoi, vous bossez un peu, Greg, de temps en temps.
Parfois, oui, absolument.
Du reggae dans une bonne dictature, quand même.
Les deux prochaines infos pour briller ou pour planer, c'est dans quelques minutes, bien sûr, il est 19h30.
On allume.
Allume la lumière.
Quand un expert nous éclaire sur un sujet d'actualité.
Et ce soir, on a voulu vous parler d'un véritable phénomène de mode, la chirurgie esthétique. Oui, sachez qu'en 2020, en France, les demandes de rendez-vous chez les chirurgiens plastiques ont fait un bond de 20 à 30% selon les régions et les spécialistes.
Alors, pourquoi cette augmentation subite ? Le public a-t-il changé ? Et qu'est-ce que cela a modifié dans la pratique de cette chirurgie ?
Alors, pour allumer la lumière sur ces trois questions, on a contacté le docteur Thierry Van Emmerich. Il est président de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Et voilà comment il explique ce nouvel engouement.
Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est celui qui a été décrit par les anglo-saxons avec ce qu'on a appelé le zoom face envy, c'est-à-dire que les écrans qui ont envahi notre quotidien nous montre aujourd'hui peut-être de façon un peu plus flagrante nos petits défauts, nos petites rides, notre regard fatigué, notre envie de paraître en meilleure santé. Il y a un véritable mal-être avec le confinement. Ben, on essaie de le contrer par des petits gestes esthétiques, et ce d'autant que le masque en lui-même permet de cacher des petits bleus qui pourraient être la conséquence d'injections, par exemple.
Donc confinement et écran ont poussé beaucoup de gens à franchir le pas, mais est-ce qu'on constate aussi un changement de clientèle ?
Absolument, un rajeunissement du public, et le docteur Van Emmerich nous en donne la raison principale. Écoutez bien, c'est étonnant.
Les anglo-saxons ont parlé de dysmorphophobie Snapchat. L'utilisation des filtres peut donner une fausse image de soi-même, une image optimisée qui est parfaitement fausse et injustifiée. Et là, c'est notre rôle d'expliquer aux patients que c'est pas la réalité. Un, techniquement, c'est pas possible. Et deux, ça n'a pas de sens au plan de la vision qu'on peut avoir de soi-même. Mais on voit des photos, pour ne pas la citer, de Kim Kardashian ou d'influenceurs qui vont donner une fausse idée, là encore, de l'image de soi, du corps, et c'est à nous de faire la part des choses et d'expliquer que ce n'est pas la réalité. Il y a des limites à ne pas franchir, parce que c'est une question extrêmement prégnante aujourd'hui, de définir où sont les limites, avec une population, notamment les jeunes, qui cherchent à détruire ces limites. Et donc, comment faire pour retrouver ce sens des limites ? Nous aurons tout un thème philosophique sur ce sujet.
Des jeunes de plus en plus nombreux, forcément la chirurgie ça coûte cher, il n'y a pas un risque de voir émerger un marché parallèle ?
Il existe même déjà, mon cher Laurent, et là, il y a danger, comme l'explique le chirurgien.
La demande a créé ce genre de pratique qui est parfaitement illégal. Il y a eu une alerte qui a été faite auprès de nos instances pour parler notamment, par exemple, de certaines esthéticiennes qui faisaient des injections. C'est clairement de l'exercice illégal de la médecine, avec des complications majeures. On a vu des nécroses de lèvres, on a vu dont des nécroses, c'est-à-dire une perte d'un morceau de lèvre parce qu'elle n'est plus alimentée par des petits vaisseaux. Et donc, on peut avoir des situations dramatiques et des patients qui sont bien évidemment trompés et parfois défiguré.
Ouais, c'est assez incroyable. Hein. On rappelle le chiffre quand même, les demandes de rendez-vous chez les chirurgiens plastiques ont fait un bond de 20 à 30%. Hein,
en 2020, en plus on était confinés une partie de l'année, c'est incroyable.
Incroyable, passionnant cette allume la lumière en ce vendredi soir à 19h34.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller au dîner. Enfin pour planer quoi. Le loser de la semaine et le cadeau évidemment. Allez, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour planer.
Ah. Spécial Bob Marley en ce vendredi soir. Donc Laurent, on parle boulot.
Oui, Bob Marley ne s'est pas consacré à 100% à la musique. Alors, les quelques morceaux sortis lorsqu'il a 20 ans ne lui permettent pas d'en vivre correctement et très peu de gens le savent. Il exerce alors un métier appris à l'école, soudeur. Oui, il a notamment travaillé dans les ateliers de construction de voitures Chrysler, mais la future star du reggae ne gardera pas longtemps cette activité. Bob Marley a failli perdre un œil en maniant un morceau de métal en fusion. Ouais, un accident du travail qui marque la fin prématurée de sa carrière, mais le début d'une autre parce que l'événement l'incite à se surpasser pour la musique. Et vous connaissez ensuite l'histoire et le succès du chanteur.
C'est vrai que la carrière qu'on retient le plus de Bob Marley, c'est plus celle de musicien.
C'est pas soudeur. Ouais. Ça c'est sûr, on est loin.
Deuxième info pour briller en ce vendredi soir.
Faites un compliment, c'est sympa.
19h36.
RTL. Le loser de la semaine.
Ah, le loser. On l'attend tous. Hein. C'est la rubrique préférée de mon frère. Hein. Je l'ai déjà dit. Bon.
De qui ?
De mon frère.
D'accord.
Le loser, on l'embrasse. D'accord. Le grand perdant de la semaine. Et cette semaine, Marie, on peut dire que c'est même une perdante, hein, ouais. Puisque c'est une divine idylle politique qui est en train de voler en éclats sous nos yeux ébahis.
Oui, souvenez-vous, en 2017, le mariage de l'année entre Emmanuel Macron et François Bayrou, patron du Modem, qui alors déclarait sa flamme sur toutes les ondes.
J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Le discours du président de la République, d'abord je trouve que c'était un discours majeur.
L'image tellement émouvante d'Emmanuel Macron arrivant, c'était
superbe, il y avait des gens autour de moi qui avaient des larmes aux yeux.
Mais le temps a passé, en 4 ans, la passion s'est fanée, et depuis quelques mois, on sentait bien que l'horizon du jeune couple s'était assombri.
François Bayrou, qui a écrit au président de la République une lettre pour lui demander la mise en œuvre de la proportionnelle, alors que La République En Marche s'oppose clairement à cette initiative. En tout cas, il aime bien mettre des coups de pression.
Et cette semaine, la foudre a frappé plus fort encore. Il est venu le temps des disputes en public et des assiettes brisées. François Bayrou a décidé de passer des mots aux actes, en tout cas par le biais de ses troupes à l'Assemblée, les députés du Modem. Mardi, coup de théâtre dans l'hémicycle.
Pour 103 contre 108.
Le Modem vote contre un article phare du gouvernement sur le pass sanitaire. Eh oui, le député Modem Philippe Latombe avait prévenu.
Depuis le début, nous avions donné des lignes rouges. Or, nous constatons qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'écoute.
Et l'argument classique, tu ne m'écoutes plus, tu ne me regardes plus. Voilà le message passé à En Marche et Emmanuel Macron. En gros, thérapie de couple en plein hémicycle, devant les députés de l'opposition, au spectacle, sur le mode pop-corn, et ils ont profité pour lâcher leur coup.
Non, enfin, la leçon, monsieur Castaner, vous venez de l'apprendre parce que vous avez été mis en minorité par des membres de votre propre majorité. Vous devriez peut-être raser un peu plus les murs. Retournez à vos études, monsieur Castaner.
Monsieur. Et pas vraiment des mots d'amour, hein, plutôt des noms d'oiseaux. Les députés en transe et au milieu, la présidente de séance, Annie Genevard, qui a tenté de calmer les ardeurs de ses collègues.
Oui, madame la présidente, je demande une suspension de séance, s'il vous plaît.
Combien de temps, monsieur le député, combien de temps ?
Il n'est pas là. Ah oui, alors il y a un rappel au règlement.
S'il vous plaît, chers collègues, on se calme. La séance est suspendue pour 2 minutes.
Une température tellement chaude dans l'hémicycle que à minuit et demi, coup de grâce, le bug.
Les amendements ne s'affichent pas sur les tablettes, donc il y a un problème technique. Non mais ils s'affichent. Moi j'ai pas.
Ça s'affiche pas du tout. Non. Parce que moi ça s'affiche.
Ah bah ouais.
Mais pendant ce temps-là, rassurez-vous, pour nos deux tourtereaux, le gouvernement de Macron et le Modem ont fini par se rabibocher. Le fameux article a été réécrit en vitesse. Olivier Véran venu en personne se faire pardonner face au patron des députés Modem, Patrick Mignola.
Le gouvernement n'est évidemment pas sourd au message que lui envoie la représentation nationale cet après-midi. Le gouvernement nous propose d'écouter les propositions qui étaient celles de la majorité. C'est la raison pour laquelle nous voterons cette nouvelle rédaction.
L'amour n'est pas mort, mais c'est un avertissement à Emmanuel Macron. Il lui faudra encore des efforts pour entretenir la flamme.
Et alors, je fais mon petit édito de la semaine politique.
C'est pas le moment de s'engueuler à un moment de la présidentielle.
Merci. C'était bien. C'était signé.
Alba Ventura, tremblé.
19h40. On joue ?
Eh oui, c'est le moment de vous rapprocher de votre téléphone puisqu'il arrive à pas de velours.
Monsieur
Cano, Grégory Caradoni, voyage, voyage.
Tu parles de pas de velours.
Ouais. Vous c'est aimez vrai les... que c'est plutôt des gros sabots.
Vous aimez les énigmes, mais vous vous dites à quand un week-end ? À quand le soleil ? À quand le repos ?
Mais oui.
Ou à quand la mer ? La réponse est dans toutes ces questions, car l'un d'entre vous repartira ce soir à quand la mer en Normandie. Quand la mer, quand la mer, c'est dans le top 10 des villes les plus vertes, les plus accueillantes où il fait bon vivre en France. Au programme, découverte du patrimoine, de la gastronomie, des plages, du spa, de l'hôtel, pourquoi pas la gastronomie. Tiens, on vous offre un dîner lors de ce séjour. Bon, un dîner, c'est pas mal. Mais après un bon repas. Eh bien, une bonne nuit vous attendra car vous séjournerez à l'hôtel 4 étoiles Le Dauphin. Vous n'avez pas quelque chose pour faire un bruitage, Brice, là, non ?
On m'a pas donné l'ustensile, mais oui, c'est
on va le retrouver, on va le retrouver. On vous offre aussi une visite du centre historique de Caen, une visite du château de Guillaume le Conquérant sous forme d'un parcours. Allez-y, allez-y. Non, ça le fait pas du tout.
Non, c'est vrai.
D'un parcours à énigmes. Alors, à quand le gagnant ? Dans 15 minutes, c'est une certitude pour l'un d'entre vous. Quand tirer la mer ? Ça vous va pas, ça ?
Si, c'est bien, mais c'est bon.
Je reprends le site, c'est pas le bon. quand-tourisme.fr. quand-tourisme.fr.
Et alors, c'est super, la Normandie et Caen, c'est super. Il y a le mémorial de Caen.
Le site, ça va pas encore. Quand la mer ? tourisme.fr. Ça va le faire ou pas ?
Ouais, très bien.
Je le redis une dernière fois. Bien. Quand la mer-tourisme.fr.
Bon, merci.
On sait que c'est quand tirer la mer, non ?
Ouais, ça, c'est clair. Non, mais c'est grâce à ça qu'on a des beaux cadeaux. Hein.
La question.
Parce qu'il faut la fameuse question au défi le monde.
On pourrait avoir quand même un monsieur cadeau un peu plus court. Non ?
C'est la star de nos infos pour briller au dîner ce soir, puisque nous commémorons les 40 ans de sa mort cette semaine, Bob Marley.
Quel était le vrai prénom de Bob Marley? Parce que Bob, c'est un surnom. Robert Marley, Gilbert Marley ou Jean-Eudes Marley? Est-ce qu'il s'appelait Robert Marley, Gilbert Marley ou Jean-Eudes Marley? Vous avez la bonne réponse, ouais. 32-10, et vous partez à Caen, manger des tripes à la mode de Caen, c'est hyper bon.
Pour le super cadeau du soir, vous nous rejoignez, le standard est ouvert à partir de top maintenant à 19h42, c'est 3-2-1-0 sur votre téléphone.
Caen-la-mer-tourisme.fr, ok. Sans fond, défait
le monde sur RTL.
19h43, c'est le billet retour, c'est avec Cyprien, quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a depuis disparu.
Et ce soir, petit événement dans On défait le monde, bon, c'est même un événement tout court, hein, puisque Brice Dugénie, grand reporter du service étranger, on le rappellera jamais assez, va nous parler football. Oui, souvenez-vous. Alors un homme a vu son destin basculer le 10 juillet 2016, finale de l'Euro, dernière minute du match, la victoire est au bout du pied. Et...
Gignac. Dans la surface de réparation. Le poteau pour Gignac avec son numéro 10 à la 91e. Oh là 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 là. Oh là là là,
là.
C'est du foot là.
Aïe 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 aïe. Le poteau en prolongation, les Portugais l'emportent depuis. Ben, Gignac, auteur de ce tir sur le poteau qui aurait tout changé, on l'a jamais revu jouer en France et pourtant Brice, ben, il vit sa meilleure vie. Hein.
Oui, parce que en 2015, à la surprise générale, André-Pierre Gignac, Dédé Gignac pour les intimes, part direction Monterrey. Alors, c'est une ville au nord du Mexique, à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Texas, donc les États-Unis. Troisième agglomération du Mexique derrière Mexico et Guadalajara. Et donc, le club de foot s'appelle Los Tigres, les Tigres de Monterrey. Alors, il signe sur un coup de tête, sur un coup de cœur, dit-il. En 2017, à nos confrères de Canal+, les Tigres n'avaient plus que quelques heures pour faire signer un nouvel attaquant.
Je signe mon contrat avec les Tigres à Cancun. J'ai aucune idée à quoi ressemble Monterrey, mais aucune idée. Et mon agent André-Pierre, si tu prends la décision de signer ce soir, tu vas aller dans l'une des plus belles villes du Mexique. Je sentais que c'était pas du blabla, c'était vraiment quelque chose de sincère. J'ai signé sans connaître la ville. J'ai foncé.
Sans connaître la ville, il fonce. Il devient alors le joueur le mieux payé du championnat mexicain. Et il découvre une ambiance. Écoutez, devant le stade, à l'arrivée du bus des Tigresses, les jours de match, dans une fumée épaisse de fumigène, le bus est escorté par la police, c'est du délire. Et là, le match n'a même pas commencé. Dans cet engouement, Gignac se découvre un deuxième pays. Il marque but sur but. 6 ans après, aujourd'hui, il est devenu une idole. 154 buts marqués sous son nouveau maillot. Il est le meilleur buteur de l'histoire de ce club, meilleur buteur européen de l'histoire du championnat mexicain. Et il a permis à ce club de gagner pour la première fois la Ligue des Champions de cette zone Amérique centrale, Amérique du Nord. Et c'est même lui qui a marqué en finale en décembre dernier. Et meilleur buteur, et meilleur joueur, il hisse les Tigresses en finale de la Coupe du Monde des clubs battue par le Bayern de Munich il y a quelques semaines, 1-0. C'est ce qui fait de son passage dans le club si incroyable, c'est que grâce à lui, le club a changé de dimension, a gagné des titres inaccessibles jusque-là. Et d'ailleurs, dans la région, beaucoup d'enfants depuis son arrivée dans le pays portent son nom ou son prénom à l'état civil. Ça dépend, André-Pierre ou alors Gignac, en hommage évidemment à ce joueur.
Et sportivement, donc c'est un carton, mais personnellement aussi.
Absolument. D'abord, il parle extrêmement bien espagnol. Écoutez-le justement juste après la finale gagnée en décembre de cette Ligue des Champions.
Por fin, felicidades al equipo, al cuerpo técnico, a la institución. Y eso es para la gente de Monterrey que siempre está apoyando.
Après 3 finales perdues, vous l'entendez, je traduis, il dédie ce titre au peuple de Monterrey, peuple auquel désormais il appartient. Il a même fait la demande avec sa femme de la double nationalité franco-mexicaine, comme 2 de ses 4 enfants qui sont nés là-bas. Et il envisage de poursuivre sa vie après sa carrière de joueur. Il a même commencé à acheter des terrains pour monter une académie de football à Monterrey pour venir aux enfants des quartiers défavorisés. Et depuis qu'il est là-bas, il s'est découvert une passion, le tatouage. Aujourd'hui, André-Pierre Gignac en a le corps totalement couvert, des tatouages à l'effigie de son nouveau club. Même son père s'est fait tatouer un tigre dans le dos avec le numéro 10, le numéro de son fils. L'intégration se fait en famille, dans la famille Gignac.
Et il y a d'autres Français qui ont joué dans ce championnat avant lui?
Alors oui, il y a eu Amara Simba.
Ah oui, il est bicyclette.
Exactement. En 96, qui n'a pas laissé un grand souvenir. Un autre joueur, Andy Delors, qui joue dans le championnat de Ligue 1 français aujourd'hui, mais lui est resté moins de 6 mois. C'est ce qui montre aussi que cette réussite d'André-Pierre Gignac, elle est remarquable. Alors du coup, eh ben, les commentateurs mexicains, ils ont dû se faire à ce nom imprononçable pour eux. Alors il y a deux écoles, ceux qui l'appellent par son prénom.
André-Pierre, 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 André-Pierre,
Voilà, André Pierre. Et puis, il y a certains qui tentent même un peu de français. Écoutez bien, il dit « Ouh là là, mon ami !» Et bien sûr, c'est la majorité, ceux qui préfèrent son nom de famille, mais attention, les prononciations sont différentes.
Guignac, Guignac. Non, muy bien contenido, luego Guignac, qué golazo. Guignac dentro del área, Guignac. Gol de Tigres, gol de Tigres, gol de Tigres.
Caramba. Et enfin, ce joueur qui donne tout pour son nouveau maillot a évidemment aiguisé la créativité du peuple de Monterrey. Plusieurs chansons lui sont consacrées. Alors, il y a la parodie d'un classique.
Bomboro, quina, quina.
El bomboro, bomboro, guignac.
Alors, je précise à nos auditeurs qu'il a chanté ça dans le bureau tout l'après-midi.
Alors, ok, c'était pas obligatoire. Et plus récemment, il y a eu une chanson de rap.
André, hermano, eres mexicano, adoptado como regio montano.
André, tu es notre frère des désormais, tu es mexicain. Et alors moi qui ai regardé pas mal de vidéos d'André Pierre Gignac ces dernières heures, je comprends pourquoi ils l'ont adopté.
Et qui découvre un peu le foot quand même.
Alors je découvre pas le foot, oui. Je vous remercie, je découvre quand même le foot mexicain. Mais dans les vidéos que vous pouvez voir de ces 10, 20, 30, 40 plus beaux buts, il y a quand même des gestes hallucinants, c'est-à-dire des bicyclettes, des frappes de 40 mètres. Et évidemment, ça facilite un peu l'intégration.
Et alors je précise, pour être un peu sur l'actu quand même, qu'il a été présélectionné. Là, on l'a pris cette semaine dans la liste des joueurs pour jouer les JO de l'équipe de France. Et qu'il va être rejoint par Florian Thauvin, joueur de l'OM, qui le rejoindra au Tigres à la fin de la saison.
En 3 secondes, je rassure Cyprien. Ah. Il le dit à longueur d'interview, André-Pierre Gignac, son club de cœur reste vrai. Évidemment suite ton, son enfance, c'est l'Olympique
Marseille. C'est le sang. Formidable, hein, ce billet retour sur André-Pierre Gignac avec tous ses commentateurs de football. Ça me faisait penser à un monsieur qu'on a bien connu.
Jeanne Saccomano.
Jeanne Saccomano.
Je pense à lui.
Formidable. Merci à Brice Dugénie, il est 19h40.
Je rassure personne, Brice va chanter.
Ben non, non, non.
Guignac, guignac.
La troisième info pour briller ou pour planer au dîner dans un instant.
Guignac, guignac.
RTL Soir, on défait le monde.
19h50, c'est l'actualité en direct, bien entendu, avant la suite et la fin de On défait le monde en ce vendredi. Je vous communique cette information du ministère de l'Intérieur qui concerne le tueur présumé des Cévennes qui est en fuite depuis maintenant 4 jours. Eh bien, il s'est rendu aux forces de l'ordre, on l'apprend à l'instant. Tous les détails, bien sûr, dans le flash à 20h sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour planer.
Et on revient à nos infos pour briller au dîner, pour planer ce soir, Cyprien, avec Bob.
Et je vous parle du premier achat qu'a fait Bob Marley quand, avec son groupe, les Wailers, il a commencé à gagner un peu d'argent. Il a acheté une voiture, mais alors pas n'importe quelle voiture. Il a fait venir à Kingston, en Jamaïque, spécialement d'Allemagne, une BMW. Non pas que Bob était fan de BMW, hein, il était plutôt pas trop matérialiste, mais il voulait absolument une BMW.
Et pourquoi ?
Car BMW, c'est aussi les initiales de Bob Marley and the Wailers. Ah. Et ça le faisait marrer d'avoir les initiales de son groupe sur sa voiture, et toute sa vie ensuite, il n'a roulé qu'en BMW.
Ah. Elle est pas mal, celle-là.
Ouais. Bravo.
Pour une fois, elle est pas mal.
Il est fort.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Je pense qu'il va la remporter.
Ah, bien, hein. Je pense que ce soir, il va la remporter. Parce qu'elle est facile à glisser à table et tout ça.
Moi, j'en ai
fait
sur Marie.
Je dis ça comme ça, 19h52.
Marche ou rêve ?
Marche ou rêve, c'est quand on met en valeur vos initiatives et vos idées.
Et ce soir, Laurent, une idée originale et solidaire qui cartonne et qui va intéresser tout le monde.
Des recettes simples, des repas complets, une liste de courses accessible aux familles, aux étudiants qui ont de petits budgets chaque semaine. C'est le défi que s'est lancé il y a un mois seulement Marina, 22 ans, lilloise, et son concept sur Twitter, un repas 1 euro, le message est très clair. Plus de 34 000 personnes la suivent sur le réseau social et elle est en ligne avec nous. Bonsoir Marina.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer ?
Pour être honnête, ça s'est fait un petit peu par hasard, puisque pendant le premier confinement, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup cuisiné. Et je m'étais mise à partager ça à l'époque sur Instagram. Et en fait, très naturellement, il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles appréciaient de trouver des recettes pas chères parce qu'elles avaient très très peu d'argent pour se nourrir, en particulier avec le confinement, puisqu'elles avaient perdu par exemple leur job étudiant. Et en fait, c'est les retours des gens en fait qui m'ont donné les idées, c'est-à-dire qu'en fait c'est purement répondre à une demande, mais à la base c'est tout simplement les utilisateurs qui sont venus vers moi en fait.
Et alors ça paraît hyper compliqué quand même, un repas pour 1 euro quand on fait les courses et tout ça. Comment vous faites, comment vous trouvez vos recettes?
Franchement, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que bah, 1 euro, c'est vraiment très très peu pour se nourrir et surtout pour se nourrir de façon équilibrée. Donc honnêtement, c'est beaucoup de calculs, c'est-à-dire beaucoup comparer les prix tout simplement. Aller, parfois, je vais au magasin et je fais les rayons et je prends en photo tout simplement. Mmh. Et à force, je finis par savoir quels sont les aliments qui coûtent le moins cher. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile.
Oui, Marina, par exemple, donnez-nous quelques exemples de repas ou de recettes que vous proposez sur Twitter à 1 euro.
C'est principalement des recettes végétariennes, du coup sans viande. Mais par exemple, ça peut être un curry avec du riz, des pois chiches et des champignons, par exemple, et une sauce à base de crème et de curry. Du coup, forcément, il n'y aura pas de viande. On va plutôt aller chercher tout ce qui est apport protéique au niveau des légumineuses, par exemple. Mais ça permet d'avoir des plus grosses assiettes et d'être équilibré tout en restant sous les 1 euro.
Vous réutilisez le même ingrédient plusieurs fois, même dans la semaine. On change juste la façon de cuisiner.
C'est ça, on essaie de ruser un petit peu, c'est-à-dire que si on a deux fois le même ingrédient, on va essayer de ne pas le cuisiner pareil pour ne pas se rendre compte, entre guillemets, qu'on mange, pour avoir l'impression de manger plus varié tout simplement en fait.
Vous faites des pâtes ?
Oui, je
Avec quoi ?
C'est trop facile les pâtes.
Ouais, mais avec quoi ?
Ah, les pâtes, j'ai envie de dire, ça peut se faire avec un petit peu tout, c'est l'avantage, mais c'est un petit peu un cliché au final. Je pense que la plupart des étudiants, au final, ils n'aiment pas tant les pâtes que ça parce qu'ils n'en peuvent plus.
J'ai lu que vous faisiez un gâteau au chocolat entier pour 1 euro aussi.
J'ai pas compris.
J'ai lu que vous faisiez un gâteau au chocolat entier pour 1 euro.
Oui. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui l'ont testé. Ils m'ont posté leurs photos.
Et alors, quand vous faites un gâteau au chocolat pour 1 euro ?
Bon, en fait, si vous voulez, 1 euro, c'est le prix de revient. C'est-à-dire que quand vous faites vos courses, bien sûr, vous n'allez pas payer 1 euro, vous allez payer plus cher que ça. Mmh. Mais en fait, quand on calcule le prix de revient par rapport à la quantité de chaque ingrédient qui est utilisé, ça revient à 1 euro. Par exemple, vous faites un gâteau, vous n'allez pas utiliser le kilo de farine entier, en fait. Et quand on calcule vraiment le prix au centime près des quantités des ingrédients qui sont utilisés, on est sous le 1 euro.
Mais l'inquiétude de Cyprien, je pense, revient, pardon, mais l'inquiétude de Cyprien était plus liée à la quantité de chocolat. Je pense. C'est ça qui l'inquiétait dans votre gâteau.
Non, mais je comprends mieux le système. Non, c'est super en tout cas.
Ouais, bravo.
Et vous proposez aussi des menus anti-charge mentale. Hein. On peut voir sur Twitter.
C'est ça, c'est qu'en fait, le but, c'est de mettre la liste de courses, le déroulé des recettes, vraiment absolument tout pour que les personnes n'aient vraiment qu'à lire et à appliquer tout simplement.
Ouais, et certains internautes estiment que cette démarche est d'utilité publique. Je pense qu'on peut aussi partager cet avis.
Tout à fait.
Ouais, formidable. Bravo à vous, Marina. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. On prendra de vos nouvelles.
Le compte Twitter, un repas, 1 euro. Vous pouvez y aller dès maintenant.
Bravo. Merci à vous.
Merci. Bonne soirée. C'était en direct dans On défait le monde ce soir. On a encore quelques secondes pour accueillir le gagnant de ce soir.
Le gagnant, s'il répond bien à la question. En tout cas, Damien est en ligne avec nous de Loire-Atlantique. Bonsoir, Damien.
Bonsoir à tous.
Alors, vous nous appelez de Loire-Atlantique, d'où précisément ?
De Valette.
Ah oui, d'accord, de Valette.
Mais oui, c'est pas Valette.
Non, mais la Loire-Atlantique, c'est un peu le pays de Laurent Tessier.
Il y a beaucoup de gens qui appellent de là-bas d'ailleurs, c'est étonnant. Enfin bon,
j'ai une grande famille.
Vous n'êtes pas de la famille de Laurent Tessier, Laurent. Damien.
Non, pas du tout, mais par contre, si on parle de Loire-Atlantique, je sais que Bob Marley est venu en Loire-Atlantique.
Oui. Exact.
Et il a porté le maillot du FC Nantes. Exact. Et il a joué avec l'équipe du FC Nantes et Henri Michel.
Bravo.
Vous gagnez l'info pour briller. Vous gagnez l'info pour briller du soir. Je précise que Céline Landreau, qui vient de Nantes et qui habituellement fait partie de l'équipe aussi, nous a envoyé le message en nous disant mais pourquoi vous faites pas cette info pour briller ?
Parce que tout le monde le savait, Céline.
En tout cas, Damien, bravo pour votre info pour briller. Je vous pose quand même la question, quel était le vrai prénom de Bob Marley ? Robert, Norbert ou
Jean-Eude ?
Robert.
Bien joué. Damien,
bravo!
Une nuit en 4 étoiles pour 2 à Caen. Vous connaissez Caen?
Oui, je connais un petit peu, mais c'est pas très loin de chez moi, mais je serais ravi d'y aller, bien sûr.
Ah, c'est beau, hein, puis le 4 étoiles, c'est sympa, le mémorial de Caen, les plages de débarquement, les tripes à la mode de Caen.
Oh là là, mon ami, magnifique.
Ça va faire du bien. Est-ce que vous avez retenu le site, l'adresse du site de Caen? Je suis pas sûr.
Bah, je vais vous le redonner, hein, c'est plus simple quand même.
Caen la mer.
Caen la mer, bravo-tourisme.fr. Vous voyez, il l'avait retenu, c'est super.
Oui, il était très attentif. Bravo,
bravo Damien.
Bravo Damien.
Merci. J'en profite pour saluer mes correspondants locaux, Philippe Audouin, Patrice Gabart, j'écoute, j'apprécie. Cyprien, je vous écoute le matin, le petit matin jusqu'au soir.
Vous le subissez toute la journée.
Que je ne rate jamais.
C'est super, ça fait vachement plaisir. Merci beaucoup Damien.
Merci Damien, merci de votre fidélité.
Merci les cadeaux.
Très bonne soirée toute l'équipe. On se dit à vendredi prochain.
À la semaine prochaine.
Ce sera numéro 36 pour défaire le monde de 19h15 à 20h. Dans un instant, toute l'actualité.
Il nous reste 20 secondes, Brice.
Allez.
Non, je ne céderai pas.
Dommage.
Voilà. Mais c'est très très beau, j'adore, je l'écoute.
On défait le monde dans RTL.